Tandis que le président et le capitaine arrêtaient froidement les conventions de leur duel, Michel Ardan se reposait des fatigues du triomphe dans la chambre de l'hôtel où il s'était réfugié. Comme le lit était plutôt dur, il dormit assez mal, et les coups désordonnés que l'on frappa à sa porte aux premières heures du jour n'eurent aucun mal à le réveiller. « Ouvrez ! Ouvrez ! Au nom du ciel !» s'est agité Maston, en proie à la plus vive agitation. Il expliqua que le contradicteur de la veille était le capitaine Nicholl, que les deux hommes étaient partis pour se battre et qu'il fallait absolument empêcher ce duel, car si Barbicane était tué, c'était l'anéantissement de l'opération. J.T. Maston avait raison. La situation était grave. Et ce fut en grandes enjambées que les deux hommes gagnèrent le bois de Scarano où avait lieu l'affrontement. Tout y était silencieux. « Nicholl ! Barbicane !» cria J.T. Maston. Personne ne répondit. Et il fallut bien entreprendre de fouiller les taillis, en prenant garde de ne pas être pris pour l'adversaire par l'un ou l'autre des duellistes, et de compromettre l'opération de sauvetage. « Nicholl !» J.T. Maston venait de l'apercevoir debout et désarmé. C'était donc qu'il n'avait plus rien à craindre de son adversaire et que le président Barbicane était mort. En fait, le capitaine Nicholl, son fusil à terre et oubliant les dangers de la situation, s'occupait à délivrer le plus délicatement possible un petit oiseau pris dans les fils d'une monstrueuse araignée. « Que venez-vous faire ici ?
Je suis venu vous serrer la main, monsieur, et vous empêcher de tuer Barbicane ou d'être tué par lui.
Monsieur, il y a entre le président Barbicane et moi-même une rivalité telle que seule la mort de l'un ou de l'autre... « Vous ne le tuerez pas !» l'interrompit Michel Ardan. « Car j'ai à faire aux deux rivaux une proposition si séduisante qu'ils s'empresseront de l'accepter. »«
Laquelle ?» demanda Nicholl avec une visible incrédulité.
« Je ne puis la communiquer qu'en présence de Barbicane. » Et les trois hommes partirent de concert à la recherche du président Barbicane pour le découvrir une demi-heure plus tard, adossé à un arbre, un crayon à la main. Il traça des formules géométriques sur son carnet, sans même s'apercevoir qu'on s'approchait de lui. Il fallut pour le tirer de ses calculs que Michel Ardan lui prenne la main. « Ah !» s'écria le président Barbicane. « Toi ?» Car maintenant, les deux hommes se tutoyaient.
« J'ai trouvé !»«
Quoi ?»«
Le moyen d'annuler l'effet du contre-coup au départ du projectile. »«
Vraiment ?»«
Oui, de l'eau ! De l'eau qui fera ressort !»
Et le président Barbicane, tout à l'excitation de sa découverte, ne se rendit compte de la présence du capitaine qu'en tendant son carnet de notes à Michel Ardan.
« Nicholl, j'avais oublié. »
« Je suis prêt. »«
Il est heureux !» s'exclama Michel Ardan en s'interposant entre les deux hommes. « Il est heureux que de braves gens comme vous ne se soient pas rencontrés avant que nous arrivions. Au fond, il n'y a jamais eu entre vous qu'un malentendu. L'ami Barbicane croit que son projectile ira droit à la lune, et l'ami Nicholl est persuadé qu'il retombera sur la terre. Je n'ai pas la prétention de vous mettre d'accord, et je vous dis simplement, partez avec moi et venez voir si nous restons en route. »«
Hein ?»
fit J.T. Maston, stupéfait. Quant aux deux rivaux, à cette proposition subite, ils avaient levé les yeux l'un vers l'autre.
« Accepté !» s'écria Barbicane.
Mais si vite qu'il eut prononcé ce mot, Nicholl l'avait achevé en même temps que lui.